Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Comment maintenir un dialogue, une conversation avec un adolescent? Ce n'est pas toujours facile, encore moins pour les parents. L'une des plus grandes préoccupations des parents de jeunes, garçons ou d'adolescents, est d'entretenir cette bonne communication avec son ado ou ses adolescents. Alors, comment entretenir ce dialogue, cette conversation, ces débats avec son adolescent? Quels sont les sujets intéressants à discuter avec les adolescents? Eh bien, c'est tout le sujet que je vous propose aujourd'hui dans ce quatrième volet d'émission avec mes deux intervenants que vous avez pu entendre les semaines précédentes, Benoît et Isabelle Dacre-Vreit, que je salue très vite. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Benoît. Donc je rappelle Isabelle, cette fois-ci je commence avec vous, que vous êtes coach de vie après avoir été longtemps infirmière en milieu scolaire.
Notamment.
Et pour vous Benoît, je rappelle que vous êtes conseiller conjugal familial et coach professionnel. Cette émission sera bien sûr en podcast et avec une fiche qui s'accompagne aussi de toutes vos coordonnées. Alors la question est un petit peu posée, ça sera le cœur de cette émission. Comment maintenir, je dirais, un espace de dialogue entre les parents et puis ces ados qui sont à la maison, qui ne sont plus complètement des enfants et pas complètement encore des adultes. Voilà.
Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet de disponibilité déjà de nos cœurs, de disponibilité physique. Hein. Est-ce qu'on a du temps avec nos ados? Alors souvent, peut-être on peut dire encore qu'il y a les repas qui sont un bon lieu de débat, de sujet. Mais on peut aussi aménager des temps, surtout quand on a une fratrie qui est un peu étalée avec des ados en aîné et puis des petits en dernier. Peut-être se faire peut-être un dîner avec que les ados où on peut aborder certains sujets. Alors d'abord en priorité, je trouve que l'idée c'est de pouvoir leur laisser un espace hyper libre d'aborder ces sujets-là. Alors comment est-ce qu'on va faire qu'ils vont se sentir bien et désireux d'aborder certains sujets? Ça c'est un peu notre attitude, nous, de parents. On va voir comment peut-être favoriser ces dialogues-là. Et puis, quel sujet aborder avec...
Et au fond, il faut de la confiance pour aborder...
La confiance...
La confiance des ados envers les parents pour qu'il n'y ait dans cette écoute aucun jugement.
Peut-être. Alors, l'adolescent, il faut lui faire confiance. Il aime bien aborder aussi des sujets qui vont nous déstabiliser. Ça, c'est de la provocation.
Ça fait partie de son rôle. C'est le jeu.
Voilà, c'est toujours le terrain de jeu. Donc ça, il faut lui faire confiance qu'il va aborder les sujets. Par contre, c'est vrai que s'il s'est fait un peu rabrouer plusieurs fois, il va peut-être arrêter. Mais alors, c'est ça qu'il va falloir qu'on creuse, nous, parents, comment leur permettre toujours et encore d'aborder ces sujets qui les inquiètent, qui les préoccupent ou simplement qu'ils ont envie de confronter.
C'est là qu'il faut ménager dans la famille une ouverture à la contradiction, une ouverture au débat, une ouverture à l'autre, et finalement se dire qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Si elle est là, c'est qu'elle mérite d'être abordée. Et donc inclure l'enfant, lui dire qu'il a de l'importance, que sa parole a de l'importance et que c'est intéressant. Alors c'est pas toujours évident parce qu'il y a quelquefois des sujets qui nous intéressent pas ou on se sent pas compétent et pourtant le jeune a envie d'en parler parce que c'est son point d'intérêt. Comment est-ce que je vais faire pour le questionner? J'ai pas besoin d'avoir des réponses, mais pour m'intéresser. Et puis il va effectivement apporter des sujets de contradiction, de provocation, des sujets qui peuvent soit être des sujets qui nous tiennent à cœur parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a des références, parce que on a des choses à défendre. Justement, le jeune, il a besoin de tester ses limites, il a besoin d'éprouver les limites pour savoir si elles sont solides. Il a peut-être des camarades de classe qui lui apportent des sujets avec leurs propres idées, il n'a pas les réponses, alors il va aller tester les réponses auprès de ses parents. Peut-être avec des idées qui ne sont pas vraiment les siennes, mais qui sont celles qu'il reçoit et qu'il a besoin d'éprouver. Et donc, bien sûr, ça va être déstabilisant. Ça peut être des sujets qui renvoient à des blessures pour le parent. Et est-ce que je consens à m'ouvrir quand même sur ces sujets-là? Ça peut être plus compliqué. Mais est-ce que j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses, de dire pourquoi ces sujets sont difficiles? C'est une ouverture. l'ouverture que je vais offrir à mon jeune dans ce dialogue, dans ce débat, est celle qui va se construire dans le jeune pour oser aborder les sujets compliqués, les questions qu'il a. Et si je veux que le jeune puisse avoir confiance et dire des choses qui vont déranger, mais parce que c'est un sujet important pour lui, et ça peut être des problèmes de harcèlement, des choses, des bêtises qu'il a pu faire et qu'il n'ose pas dire, des choses qui dérangent. Est-ce qu'il va oser dire les choses qui dérangent? Et si, lorsqu'on débat de sujets qui dérangent, on est dans l'évitement ou dans l'apport d'une réponse définitive qui clôt le débat? Donc, est-ce qu'on apporte des réponses ou est-ce qu'on apporte des questions qui permettent d'ouvrir le dialogue?
En fait c'est cette posture, nous, de parents, de savoir que le jeune a aussi son avis. Et même si ce n'est pas un avis affiné, ajusté, avec ses gros sabots, mais il arrive avec ses colères, peut-être, ses formes d'injustice par rapport à une situation. Et il pose un sujet. Comment est-ce que nous, on va lui permettre d'affiner ce sujet-là? Alors, ça va être par des questions. Il n'y aura pas que le questionnement, parce que si on ne pose que des questions, il n'y aura que son avis. C'est aussi peut-être s'autoriser à poser, peut-être, voilà ce que moi j'en pense, mais moi, ce n'est que moi, ou voilà ce que j'ai lu, ou voilà ce que pense telle association ou qui est expert dans ce domaine. Ça peut enrichir le débat, et c'est intéressant.
Benoît, vous avez envie de réagir?
On peut justement se donner l'occasion d'être émerveillé au lieu de dire d'essayer d'apporter des réponses. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, et on va quelquefois être étonné de la maturité qui va pouvoir se manifester, non pas parce qu'on est en train d'échanger des arguments pour convaincre l'autre, mais parce qu'on s'intéresse à la position de l'autre. Et donc, au lieu de vouloir convaincre et d'être dans ce débat de conviction où le jeune va essayer de convaincre pour nous montrer que la limite qu'on pose n'est pas pertinente, etc., et où on va être dans
un
rapport de force sur les idées, comment est-ce que j'ouvre le dialogue en lui disant « Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ta position m'intéresse. » Et bien là, le jeune va se responsabiliser dans sa réflexion et va être amené à apporter des arguments construits, alors qu'ils vont peut-être tout déstabiliser, et avec quelle ouverture est-ce qu'on va consentir à dialoguer, à dire « Oui, t'as raison sur ce point-là. » Et en même temps, moi j'observe ça, donc voilà, comment est-ce qu'on construit une position qui va peut-être être amenée à nous faire bouger, ou à reconnaître que les choses ne sont pas complètement connues ou certaines de notre côté, mais ça va permettre au jeune de construire lui sa propre conviction et de faire un chemin de réflexion qui n'est pas « je dois obtenir une réponse d'autorité à laquelle je vais me fier » et qui va me dire quoi penser, parce que ça c'est un peu trop ce qu'on leur enseigne, et c'est un peu trop une éducation justement qui consiste à dire voilà la conformité de ce que tu dois penser. Non, c'est comment est-ce que je construis ma propre conviction sans rejeter les références mais en les questionnant, et qui me permet d'avoir cette assurance. Donc comment est-ce que je lui permets d'avoir une position qui est la sienne et qui ne va pas être ma position d'autorité, référence?
Les sujets abordés intéressants, ça pourrait être la politique. Ils ont des idées intéressantes.
Et ils suivent l'actualité.
Ils suivent la politique
de près.
Et parfois plus que nous, ou de façon différente en tout cas. Et en tout cas, ils ont des sons de cloche peut-être différents des nôtres. Et c'est intéressant de pouvoir parler politique avec eux. Certains en tout cas sont très passionnés par ça. Mais ça peut être aussi, d'abord ça peut être leur passion. Je me souviens d'un jeune qui était passionné de films d'animation. Mais c'était impressionnant. Je ne connaissais pas le quart de la moitié, même rien du tout. Et il était passionné, il connaissait la façon de se construire. Écoutons nos jeunes dans leur passion.
Donc découvrons nos jeunes peut-être.
Découvrons nos jeunes. Et on aura appris des tonnes de choses. Et pourquoi pas regarder des films avec eux.
Une manière aussi peut-être à nouveau de s'émerveiller en tant que parent.
Bien sûr. Après, il y a d'autres sujets qui sont peut-être plus difficiles à aborder. Par exemple, je pense à la mort. C'est un sujet qui n'est pas facile d'aborder la mort. Mais quand un jeune est confronté à la mort peut-être de son grand-parent ou d'un jeune qui s'est suicidé, c'est peut-être important de pouvoir parler de la mort. C'est un sujet délicat. Ce sera peut-être un sujet qui me fera de la peine à moi par an parce que je suis confrontée à ça. Mais comment on peut oser aborder des sujets qui sont peut-être plus personnels, peut-être qui nous engagent peut-être un peu plus que dans des débats d'idées. Puis après, il y a d'autres sujets, peut-être éthiques, la foi aussi. Qu'est-ce qu'on pense, je ne sais pas, par exemple, la présence réelle. C'est intéressant comme sujet. Qu'est-ce qu'ils ont comme vision, comment ils perçoivent les choses, qu'est-ce qui est évident pour eux ou pas. Et ensemble, finalement, ensemble en famille, on grandit.
En fait, on entend aussi aujourd'hui dans ce rendez-vous consacré au fond à ce temps en famille où la famille va ou provoquer mais laisser un espace de discussion. C'est un signe de bonne santé pour la famille.
C'est un signe de bonne santé et c'est un signe de construction. Ce qu'on disait sur la construction de l'autonomie du jeune dans le domaine pratique, de la vie concrète, elle se fait aussi dans le domaine des idées, et elle a besoin de se faire, et on a besoin de donner, d'armer nos jeunes pour qu'ils soient adultes dans leur manière de penser, et qu'ils ne soient pas justement soumis à une autorité pas forcément légitime ou justifiée sur leurs idées, mais qu'ils soient capables de les construire. Donc, comment est-ce qu'on construit leur autonomie de pensée ?
Et c'est aussi leur donner un esprit critique. Un esprit critique, c'est-à-dire ce que j'entends à la télé, ce que j'entends à la radio, ce que me disent mes amis, ce que me disent mes parents. Je veux avoir un esprit critique, c'est-à-dire vérifier les informations, me construire mon opinion, la confronter, trouver des arguments. Et là, on grandit.
En fait, on parle aussi de débats, hein, d'idées.
Bien sûr.
Et au fond, cette émission est un rendez-vous pour grandir et grandir en famille, parents, enfants, adolescents. Merci à tous les deux, Benoît et Isabelle Dacre-Freit. On se retrouvera certainement dans quelques semaines dans cette même émission. On peut retrouver ce rendez-vous en podcast sur le site de notre radio chrétienne et toutes vos coordonnées sont données donc dans cette émission du jour. Merci à tous les deux et puis à très bientôt.
Merci Nathalie.
Au revoir.
Au revoir.